nous allons commencer aujourd'hui par conférence de Takashi Kinoshi, qui est doctorant, fait une thèse sous ma direction sur la littérature l'éducation sentimentale et la littérature romantique. Et il va nous parler de la gravure romantique.
Oui, Flaubert.
Flaubert et la gravure romantique. Donc nous avons un premier exposé, discussion, nous ferons une pause, et ensuite nous entendrons Ségolène Lemaine, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université Paris 10. Et voilà, ce sera notre matinée. Donc,
nous écoutons. Je fais circuler une feuille de présence, si vous voulez, comme ça, la fin du courant du séminaire, vous mettez très visiblement votre adresse mail. Je commence par finir. Très bien.
Merci. Flaubert est l'ennemi des illustrations. Il refuse catégoriquement d'illustrer ses livres. Flaubert écrit à son éditeur « Toute illustration en général m'exaspère, à plus forte raison quand il s'agit de mes œuvres. Et de mon vivant, on n'en fera pas, dit-il. » Dans une lettre à Ernest Duplan, Flaubert explique son refus de l'illustration. « Jamais, moi vivant, on ne m'illustrera. » Parce que la description littéraire est dévoilée par le piètre dessin. Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. L'idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles. Tandis qu'une femme écrite fait rêver à mille femmes. Selon Flaubert, l'image visuelle risque de tuer le texte littéraire. Malgré ce refus catégorique de l'illustration, Flaubert s'intéresse aux gravures de son époque. Nombreuses sont les gravures qui jouent un rôle important dans ses romans, telles que celles de Kipsec qui font rêver Emma, celles de la géographie qui constituent toute l'éducation littéraire de Félicité, ou les images pédagogiques avec lesquelles Pécher tente de frapper l'imagination de l'enfant. Dans l'éducation sentimentale, Flaubert fait référence explicitement ou implicitement aux images qui caractérisent les années 1840, les caricatures de Cavalloni et de Daumier, les gravures napoléoniennes, les images de l'année 1848, etc. Pour Flaubert, les gravures sont aussi des sources d'inspiration. Il est connu que la tentation de Saint-Antoine a été inspirée d'un tableau de Bruegel, mais c'est la gravure de Jacques Callot que Flaubert a accrochée au mur de sa chambre de travail. Il en va de même pour la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Ce conte s'est inspiré d'un vitrail de la cathédrale de Rouen, mais c'est l'illustration de Le Volage de Langlois que Flaubert a regardé pendant la rédaction de ce conte. Mais c'est pour préparer l'éducation sentimentale qu'il a consulté des gravures de manière le plus systématique. Avant d'écrire ce roman, Flaubert a pris des notes sur de nombreuses lithographies qui étaient parues dans la revue L'Artiste ou dans le journal Le Charivari. Dans les dossiers préparatoires de Flaubert se trouvent aussi des notes sur projets gravures représentant les événements politiques de 1848. La gravure occupe ainsi une place importante et complexe dans la création littéraire de Flaubert. Dans ces dernières années, plusieurs travaux ont été consacrés au rapport entre Flaubert et les arts visuels. Pourtant, il me semble que l'importance de la gravure dans la création flaubertienne est encore méconnue. C'est peut-être parce que on a peine à imaginer aujourd'hui l'importance de la fonction sociale de la gravure au XIXe siècle. À cette époque, la gravure jouait un rôle majeur dans la diffusion des œuvres d'art. Elle était aussi un instrument privilégié de propagande dans tous les domaines. La politique, la religion et aussi la littérature. Les rapports de Flaubert avec la gravure doivent être saisis dans ce contexte historique. Cette communication se propose d'étudier les références et les allusions aux gravures de l'époque romantique dans les romans de Flaubert, en particulier dans l'éducation sentimentale. On tentera de montrer l'importance de médialité dans les romans de Flaubert et par là d'apporter une lumière nouvelle sur le statut de l'image chez cet écrivain. Mais avant de visiter la mémoire de l'image dans les romans de Flaubert, il faudra d'abord jeter un coup d'œil à ces textes de voyage parce que Flaubert y manifeste clairement ses intérêts pour la gravure romantique. Le carnet de voyage en Bretagne contient de nombreuses notes sur les gravures. Avec la régularité presque maniaque, Flaubert prend des notes sur les gravures qui sont accrochées au mur des hôtels ou des restaurants. Certaines notes comprennent même des transcriptions des légendes. Mais ce n'est pas la valeur artistique des gravures qui fait prendre la plume à Flaubert. Au contraire, c'est parce que ces gravures sont des clichés que Flaubert apprend des notes. Je prends l'exemple le plus frappant qui est celui des notes sur une série d'images qui se trouve à l'auberge de Cancale. Spell image, la demande en mariage, le mariage, le coucher de la mariée, le lever de la mariée, qu'il me tarde que tu partages ma demeure et ma couche. Je te possède, viens, veux-tu connaître des fêtes plus aimables que celle où nos conviés assistent pour nous plaire. L'imam va te l'apprendre, etc. Le lever de la mariée, le mystère de Vénus est accompli. Provisions sur la table de nuit, pâté et bouteilles de vin. Le jeune homme en belle robe de chambre confie sa joie à son père. La fillette en déshabillé témoigne sa satisfaction à sa mère qui l'engage à la pureté, à la chasteté qui font le bonheur d'une famille pendant des siècles entiers. Effet des bottes très pointues de mariée, ses pantoufles démesurément pointues. Les phrases entre guillemets sont les transcriptions des légendes. Flaubert s'amuse à décrire la bêtise bourgeoise. S'il insiste sur les bottes et les pantoufles pointues du marié, c'est parce qu'il y voit des métaphores sexuelles. Dans Par les champs et par les grèves, Flaubert développe plus longuement ses notes et ajoute un commentaire incisif. Il faut avoir vu les belles images de l'auberge de Cancale pour savoir comment le laid, le niais, le vulgaire peuvent prendre la forme sur le papier. Voyage en Bretagne de Flaubert témoigne de la diffusion des images populaires en Provence. Si Flaubert prend des notes sur les gravures de manière régulière, c'est non seulement parce qu'il aime à collectionner des clichés, mais aussi qu'il s'étonne de l'envoyissement de l'image dans les villes de Provence. Dans Voyage en Orient, l'étonnement de Flaubert est plus grand, parce qu'il se trouve cette fois de l'envahissement de l'image occidentale dans le monde oriental. Flaubert s'étonne à plusieurs reprises de retrouver des gravures françaises dans les pays lointains. Par exemple, dans un hôtel à Caire, il trouve des lithographies de Gavaloni et de Daumier. Le corridor de premier étage est tapissé des lithographies de Gavaloni arrachées au Charivari. Quand les cheikhs de Sinaï viennent pour traiter avec les voyageurs, le vêtement de dessert frôle sur le mur tout ce que la civilisation envoie ici depuis le quintessentiel comme parisianisme. Les roulettes étudiants de quartier latin et bourgeois de Daumier restent immobiles devant le nègre qui va vider les pots de chambre. Ce passage est un des bels exemples de ce que Flaubert appelle l'harmonie des choses disparates. Flaubert s'émerveille de la différence des choses rapprochées en dépit de leur hétérogénéité. Mais pour Flaubert, la diffusion des gravures représente aussi l'envahissement de la culture occidentale dans le monde oriental. Dans sa lettre à Louis Bouilhet de 19 décembre 1850, Flaubert décrit des gravures accrochées au mur d'une maison close à Athènes et déplore la disparition de l'Orient. On était là chez soi. Au mur, il y avait des gravures tendres et les scènes de la vie d'Héloïse et d'Abélard, avec texte explicatif en français et en espagnol. Au Orient, où es-tu? Ce qui intéresse Flaubert dans Voyage en Orient comme dans Voyage en Bretagne, c'est l'envahissement de l'image. les images se trouvent partout. Ce phénomène est mis en valeur également dans ses romans, surtout dans l'éducation sentimentale, mais aussi dans, dans Madame Bovary. Il est connu que les images jouent un grand rôle dans l'économie d'ensemble de ce roman. Jean Cézanec présente une belle synthèse sur ce point dans son article intitulé « Madame Bovary et la puissance des images ». Cézanec affirme que dans l'éducation romanesque de Madame Bovary, les images ont joué un rôle non moins insidieux que les livres. Et il continue, ce qu'il a perdu là en fin de compte, c'est d'avoir regardé la vie à travers des gros mots. Je me brûlerai à un exemple parmi tant d'autres, qui est celui de l'image de Louise de la Vallière. Emma, à 13 ans, descend avec son père dans une auberge de Rouen et elle a à son souper des assiettes de pain qui représentent l'histoire de Mademoiselle de la Vallière. Les explications légendaires coupées ça et là par les gratinures des couteaux glorifiaient toute la religion, les délicatesses de cœur et les pompes de la cour. Ces assiettes peintes laissent à Emma une impression ineffaçable. Leur souvenir lui revient après la rupture avec Rodolphe. Dans l'orgueil de sa dévotion, Emma se comparait à ces dames, à ces grandes dames d'autrefois dont elle avait rêvé à la gloire sur un pourtour de la Vallière. Au début du XIXe siècle, l'histoire de Louise de la Vallière était largement représentée à des fins d'édification pieuse par la propagande catholique. Selon Cézanec, l'étude des brouillons permet là d'identifier la série de gravures qui ont servi de modèle à ces assiettes mémorables. Mais Cézanec lui-même ne procède pas à cette identification. C'est ce que je tenterai de faire ici. Flaubert décrit en effet plus longuement les assiettes peintes dans les brouillons que dans le texte définitif. Je cite un passage qui est supprimé dans le manuscrit définitif autographe. Sur l'une d'elles, on la voyait avec une grande robe à queue et embrassant d'une main un crucifix, tandis qu'elle repoussait de l'autre Louis XIV qui s'avançait le chapeau bas. Cette description correspond à peu près à une chromolithographie qui est faite d'après le dessin Thrace-Véronet, c'est cette image. Mais on ne peut pas dire que cette lithographie est une source de texte de Flaubert, parce qu'il y en a d'autres qui représentent la même scène. D'ailleurs, le texte de Flaubert diffère de cette image par la description de gestes de personnages. Mais le rapprochement de passages supprimés avec cette lithographie montre au moins que la description des assiettes peintes n'est pas une invention. L'écriture de Flaubert est basée sur les images diffusées à son époque. Dans l'éducation sentimentale, Flaubert travaille de manière plus systématique avec les images de son époque. Dans ce roman, nombreuses sont les références aux images des années 1840. Certaines références sont explicites, d'autres implicites. Pour la commodité de l'exposé, je distinguerai trois types d'images. Images désignées, images suggérées et images cachées. Images désignées, ce sont des images qui sont nommées de manière explicite dans le texte romanesque. Par exemple, les sujets équestres d'Alfred de Doru que Frédéric accroche au milieu de sa chambre. Les gravures de Marc-Antoine qu'il va voir au cabinet des estampes. Ou les illustrations de Don Quichotte qui sont coloriées par Frédéric et Louise. On peut intégrer dans cette catégorie les gravures qui sont inventées par Flaubert à partir de plusieurs images de son époque. Par exemple, Flaubert donne une description d'une lithographie intitulée « Une bonne famille ». C'est un protocole de la famille royale et représente toute la famille royale livrée à des occupations édifiantes. Cette lithographie n'a pas de modèle unique, Mais Flaubert semble s'inspirer des nombreuses lithographies diffusées par la propagande officielle. Images suggérées, ce sont les images auxquelles le narrateur ou les personnages font allusion. Par exemple, des lauriers écrits à Frédéric, la poire est mûre. Ce message est une allusion aux caricatures qui dessinent la tête de Louis-Philippe sur la forme d'une poire. Célie d'Ambreuse ont fait des plaisanteries sur la queue phalanstérienne. Cette plaisanterie est une allusion aux caricatures qui représentent Victor considérant muni de la queue censée pousser au phalanstérien. Il y a aussi des allusions aux gravures napoléoniennes qui se sont largement diffusées sur la monarchie de Juillet. C'est d'abord Ussonnet qui fait allusion à une de ces gravures. Comme ce gaillard-là connaît les filles de Paris, dit Arnoux. Après vous, s'il en laisse sire, répliqua le bohème, avec un salut militaire pour imiter le grenadier offrant sa garde à Napoléon. Ce que Ussonnet fait allusion ici, c'est une gravure qui est faite d'après un motif de Nicolas Toussaint Charlet. Cette gravure est légendée en bas. Après vœux, sire, Ussonnet, qui est un personnage imitateur, fait la parodie de cette phrase et n'oublie pas non plus de mimer le salut militaire de Grenadier. Ce geste parodique de Ussonnet n'est pas négligeable. Il témoigne de la diffusion des images de Napoléon Ier sur la monarchie de Juillet. Et on sait que la propagation des images napoléoniennes a contribué à amener Napoléon III au pouvoir. Le geste parodique de Ussonnet est donc un signe de la montée du bonapartisme. Il existe une autre allusion à la gravure napoléonienne. C'est une phrase que Frédéric entend lorsqu'il traverse la ville de Paris, dévastée par l'insurrection de juin. Frédéric traverse le carrousel quand une civière vient à passer. Le poste tout de suite présente les armes et l'officier dit en mettant la main à son chapeau, honneur, au courage, malheur. Cette parole était devenue presque obligatoire. Celui qui l'a prononcée paraissait toujours solennellement ému. On sait que Flaubert utilise dans ce passage un renseignement fourni par Maxime Ducamp. Mais ce qui est plus important, c'est que Flaubert cite ici par la bouche de son personnage un mot de Napoléon, honneur, au courage, malheur. Dans les brouillons de ce passage, Flaubert fait mention d'un tableau de la bataille napoléonienne. Dans un brouillon, Flaubert écrit « Honneur, au courage, malheur, influence de Véronée, Wagram ». Dans un autre brouillon, il écrit « Honneur, au courage, malheur, pour imiter Napoléon à Wagram, sans doute ». Le tableau auquel Flaubert fait référence dans ses brouillons, c'est la bataille de Wagram Thoras Véronée, qui est un des plus célèbre tableau de la bataille napoléonienne. Mais ce tableau n'a aucun rapport avec le mot honneur au courage malheur. Flaubert fait donc une confusion, ce qui arrive souvent à cet écrivain. Le tableau dont il s'agit vraiment ici, c'est celui de Jean-Baptiste Debray, intitulé Napoléon rend hommage au courage malheur. Plusieurs gravures ont été faites d'après ce tableau. Cette gravure est légendée en bas, honneur au courage malheur. Comme dans le cas précédent, c'est la légende de la gravure qui est citée dans le texte de Flaubert. Il y a aussi une image d'Épinal de même sujet. Dans l'éducation sentimentale, l'officier de la garde nationale imite non seulement le mot de Napoléon, mais aussi son geste. Comme Napoléon, il met la main à son chapeau. Mais il y a une grande différence entre l'image de Napoléon et le texte de Flaubert. Alors que Napoléon rend hommage au courage des ennemis blessés, l'officier de la garde nationale cite le mot historique pour rendre hommage à ses collègues blessés. Ce n'est pas aux ennemis, c'est-à-dire aux insurgés, que ce mot est adressé. En effet, aucun hommage n'est rendu au courage malheureux des insurgés. Ce que la citation du mot historique de Napoléon met en valeur, c'est l'absence d'hommage au vrai courage malheureux. Je passe maintenant aux images cachées. Ce sont les images dont Flaubert s'inspire au stade de la rédaction et qui ne sont plus identifiables à l'échelle du texte définitif. Pour expliquer cette notion, je me permets de prendre un exemple de la référence picturale. Dans un brouillon de l'éducation sentimentale, Flaubert cite le titre d'un tableau de François Gélard. Je cite « La Vatona avec une écharpe comme Colline au Cap Misaine ». Colline est l'héroïne éponyme du roman de Madame de Staël. Mais cette référence est plutôt picturale que littéraire. Flaubert pense ici au tableau de François Gérard intitulé « Colline au Cap Misaine ». Selon le dictionnaire des idées reçues, l'écharpe est poétique. Dans ce brouillon, Flaubert explicite que la Vatona porte cet objet poétique pour imiter la figure de Colline qui est représentée dans ce tableau de Gérard. Mais cette référence picturale est effacée dans le texte définitif. Je cite Mademoiselle Vatona, une écharpe orientale haute des rangs, se tenait à un coin de la cheminée. Le tableau de Gérard est donc une image cachée de ce passage. L'étude des brouillons permet ainsi de découvrir des images cachées. Les notes documentaires fournissent aussi des pistes intéressantes. Avant d'écrire l'éducation sentimentale, Flaubert a pris des notes sur les périodiques des années 1840. Ces notes contiennent certaines descriptions de lithographie. Flaubert décrit des images avec ses propres termes et il énonce parfois ses jugements personnels. Par exemple, Flaubert fait une description d'un proletariat de Byron et de la comtesse Guy Joly qui est paru dans la revue L'Artiste. Byron et la comtesse Guy Joly, tableau de Deveria, gravure de Régnier. La comtesse en manche à gigot, joue de la guitare. Byron en redingote, à châle et toque à plume et en maillot. Rien n'y manque. Balustrade et rideau par-dessus une colonne. La description de Flaubert est détaillée et précise, mais l'expression « rien n'y manque » montre qu'il considère ce proletariat comme cliché. En effet, Flaubert emploie cette expression « rien n'y manque » toujours de manière ironique. Par exemple, dans une lettre à Louis Bouillet de 27 juin 1850, Flaubert l'utilise à propos d'un roman d'Eugène Scribe. Je cite, « C'est complet, procure-toi cette œuvre. L'immondicité ne va pas plus loin, rien n'y manque. » Dans l'éducation sentimentale, il emploie la même expression pour décrire la chambre de Frédéric. Store et double rideau, glace de Venise, rien n'y manquait. Flaubert prend des notes aussi sur les lithographies qui sont parues dans le journal Le Charivari. Dans les notes sur Le Charivari, il s'intéresse surtout aux lithographies de Gavaloni, par exemple à une série de costumes de bal. Flaubert, qui est un amateur des bizarreries, prend des notes sur les costumes les plus excentriques. À propos d'une lithographie intitulée « Cassique », Flaubert note « Cassique, le nez dans un bibeloquet, collier de chope ». Ensuite, pour une lithographie intitulée Insulé de n'importe où, il note Insulé de n'importe où, Gavaloni, une tête suspendue à sa ceinture. Les notes sur ces deux costumes extravagants ne sont pas utilisées dans l'éducation sentimentale, mais dans ce roman, Flaubert s'inspire de deux autres costumes dessinés par Gavaloni. D'abord, c'est le costume de débardeur, ce costume qui a été mis à la mode par Gavaloni. A inspiré à Flaubert un personnage accessoire qui s'appelle la débardeuse. Ensuite, c'est le costume d'Andalouse. Ce costume est dessiné par Gavaluni dans une lithographie qui est parue dans le Salivali de 29 janvier 1842. Cette lithographie a inspiré à Flaubert un personnage épisodique qui apparaît dans la scène de l'Alhambra. Usonne Sikoria, qui est la marquise d'Amaegui. C'était une femme pâle, à nez retroussé, avec des mitaines jusqu'au coude et de grandes boucles noires qui pendaient le long de ses joues, comme de deux oreilles de sien. Nous devrions organiser une petite fête chez toi, en raout oriental. Tâche d'herboriser quelques-unes de tes amies pour ces chevaliers français. Eh bien, qu'est-ce qui te gêne? Attendrais-tu ton Hidalgo? L'Andalouse baissait la tête. La figure de l'Andalouse était à la mode à l'époque romantique. Par exemple, le poème de Musset intitulé « L'Andalouse » était mis en musique par Hippolyte Montpou et a obtenu un grand succès. Si au début de l'éducation sentimentale, Frédéric suppose que Madame Arnoux est d'origine andalouse, c'est parce qu'il est imprégné de ce mode romantique. La marquise d'Amaegui, dont le nom est cité par Usonne, est un personnage du poème de Musset. Mais pour la description qui suit, Flaubert s'inspire plutôt de la lithographie de Gavaluni que du poème de Musset. La description de Flaubert est aussi caricaturale que celle de Gavaluni. Les lithographies de Gavaluni fournissent à Flaubert d'autres clichés romantiques. L'expression « faire son droit » par exemple. Une lithographie de Gavaluni parue dans le Salivali de 5 août 1840 est légendée « Il fait son droit ». On peut considérer cette lithographie comme caricature d'une nouvelle de Musset, Frédéric et Bernourette. Cette nouvelle décrit un étudiant en Troyes qui tombe amoureux d'une relisette. Au début de cette nouvelle, Musset lui-même emploie l'expression « fait son droit ». Vers les dernières années de la Restauration, un jeune homme de Besançon nommé Frédéric Humbert vint à Paris pour faire son droit. Comme Musset, Flaubert emploie l'expression « fait son droit » au début de son roman, mais il la met en italique pour souligner sa valeur stéréotypée. Monsieur Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait languir pendant 2 mois avant d'aller faire son droit. La relation de l'expression en italique avec sa connotation chez Flaubert est comparable à celle de la légende avec l'image chez Gavaluni. S'il est exagéré de dire que la lithographie de Gavaluni est une source de ce passage, elle permet au moins de comprendre pourquoi Flaubert a mis en italique l'expression « fait son droit ». La documentation iconographique de Flaubert concerne non seulement la vie parisienne des années 1840, mais aussi les événements politiques de l'année 1848. Les dossiers préparatoires de Flaubert comprennent une série de notes sur l'iconographie de 1848. Dans l'éducation sentimentale, on peut repérer certains nombres d'informations provenant de ces notes. Par exemple, dans la scène du Club de l'intelligence, un personnage dit « Notre maître à tous, Jésus-Christ ». Cette phrase provient des notes suivantes. Le Christ dit voix aux Tuileries, c'est notre maître à tous, très fréquent. Le Christ entre la liberté et la justice. Il tient une banderole où est écrit la fraternité. C'est là comme image ce qu'il y a de plus fréquent avec les innombrables morts de Mgr Affreux. Dans ses notes, Flaubert insiste sur la fréquence des mêmes sujets. En effet, l'épisode de Christ au Tuiroli et celui de la mort de Mgr étaient largement représentés. Ces notes sont d'autant plus intéressantes qu'il s'agit de la confusion de politique et de religieux dans tous les 3 sujets d'estampes qui y sont notés. C'est justement ce que Flaubert met en cause dans l'éducation sentimentale. approfondit cette question, c'est-à-dire le sentimentalisme politique dans les images de 48, je voudrais confronter la scène de la blessure du sardier avec une gravure qui est légendaire. Oserez-vous-t-il sur vos flairs? Le samedi, au haut d'une barricade dans la rue Lafayette, un gamin enveloppé dans trois pots tricolores criait aux gardes nationaux « Allez-vous tirer contre vos flairs ?» Comme il s'avançait, le sardier avait jeté bas son fusil, écrasé les autres, bondi sur la barricade et d'un coup de savate abattu l'insurgé en lui arrachant le drapeau. Alors que la gravure représente un épisode des journées de février, le texte de Flaubert décrit celui des journées de juin. Mais la ressemblance entre ces deux scènes est frappante. Dans tous les deux, l'enfant est enveloppé dans trois peaux tricolores et il crie la presque même phrase. En effet, cette gravure est basée sur un article qui est publié dans le National de 24 février 1848 et le rapprochement entre cet article et le texte de Flaubert a été déjà fait par Gilbert Guisan dans son article « Flaubert et la Révolution de 1848 ». Mais il me semble que Flaubert s'inspire plutôt de l'image que de texte. Entre l'article de National et la gravure qui est fondée sur cet article, il y a des différences importantes. Dans l'article de National, l'enfant est enveloppé dans un drapeau rouge et il crie « Oserez-vous tirer contre nous ?» Dans la gravure, l'enfant est enveloppé dans un drapeau tricolore et il crie « Oserez-vous tirer sur vos flairs ?» Il s'agit donc d'une image idéalisée par la propagande républicaine. Le texte de Flaubert est plus proche de cette image idéalisée que de l'article de National. De toute façon, l'utilisation de cet épisode par Flaubert est tout à fait ironique. En février, la parole de l'enfant arrêtait l'avance de la troupe. Mais en juin, elle n'a plus aucun pouvoir. En guise de conclusion, je tiens à souligner l'importance du lien entre la question de l'image et celle du cliché. Flaubert puise de nombreux clichés dans les images de son époque. L'œuvre de Gavaloni, par exemple, est un important réservoir de clichés romantiques pour Flaubert. Le dictionnaire des idées reçues s'enrichit aussi des gravures romantiques. Dans l'article Harpe, Flaubert écrit « Ne se joue en gravure que sur des ruines ou au bord d'un torrent ». Flaubert s'intéresse surtout aux légendes des gravures. J'ai montré que les légendes des gravures napoléoniennes sont citées dans l'éducation sentimentale. Le mot « Notre maître à tous », c'est aussi une légende de la gravure. La station de la légende s'accompagne souvent de l'imitation du geste. Le cliché n'est pas seulement verbal, mais aussi gestuel. Flaubert s'occupe aussi de la dimension politique de l'image. Dans l'éducation sentimentale, il décrit un protégé de la famille royale de Louis-Philippe, fait allusion au mythe de Napoléon et utilise une propagande républicaine en tant qu'image cachée. Flaubert traite ainsi des images de la propagande de trois différents régimes, c'est-à-dire la monarchie, l'Empire et la République. Quel que soit le régime, la politique n'est plus séparable de l'image de la propagande. C'est ce que suggère le texte de Flaubert. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Takashi, de ce magnifique exposé, très précis. Et puis, j'étais très sensible à votre attention à la lettre du texte. C'est vraiment un très bel exposé. Et alors, vous avez très bien fait sentir qu'on sait, mais que vous avez prouvé, c'est-à-dire l'importance du cliché chez Flaubert et la façon dont Flaubert travaille sur la rumeur du siècle, qui est à la fois une rumeur verbale, mais aussi vous avez montré l'importance de l'image et la complexité, le lien entre texte-image, c'est-à-dire vous avez montré à quel point finalement non seulement une légende, ce qu'on savait, mais aussi toute une image pouvait engendrer un personnage, et aussi la façon dont fonctionnait l'intermédialité, parce que votre exemple, par exemple, sur faire son droit, je trouvais ça très, très probant, cette façon dont finalement Flaubert travaille sur l'image et la légende de Gavarnie, mais qui est en même temps déjà un travail de Musset. Donc on arrive à ce que Proust appelait dans La Recherche des épaisseurs d'art, c'est-à-dire le travail d'un cliché, mais qui est en même temps le cliché dans tout son sens du terme, c'est-à-dire l'image et le texte. Et puis alors j'étais aussi sensible à la façon dont vous avez démontré l'intérêt fondamental encore une fois, des brouillons et des notes de lecture qui permettent à la fois d'identifier des sources au sens traditionnel du terme, mais au-delà de cela, cette intertextualité, cette intermédialité qui travaille dans le texte. Et je pense que ça peut être utile non seulement aux gens qui travaillent sur Flaubert, mais par exemple, il y a ici Amel Jégam qui travaille sur les références picturales chez Pierre Michon, et la typologie que vous avez fait de l'explicite, du suggéré, du caché, du crypté, était tout à fait pertinente. Donc voilà, donc peut-être tout de suite, j'ouvre la discussion, et des spécialistes de l'image, comme Ségolène Neyman, ont peut-être des choses à dire, notamment sur l'importance de la gravure et de la lithographie comme diffusion de ces clichés en image.
Oui, tout à fait. Ben, je pense que votre exposé était très démonstratif et très convaincant. Les systèmes d'image de cette époque-là fonctionnent beaucoup à partir du stéréotype et du typage. Ils fonctionnent par type et par cliché. Et c'est assez logique, effectivement, qu'il y ait une réflexion de cet ordre. Une autre point que vous avez bien mis en évidence, et je veux dire que ça rejoint un petit peu l'exposé que j'avais fait il y a quelques années chez vous, c'est le côté image cachée, l'occultation de certaines sources, mais qui sont évidemment comprises par les contemporains, parce que partage l'univers de référence. Donc il y a une charge évocatoire qui est là simplement parce qu'on c'est du même monde, c'est du même univers de référence, qui est à la fois visuel et. Je crois qu'il y a ces jeux de résonance qui interviennent à travers ce procédé d'image cachée.
Oui, c'est important de prendre en considération la distinction de la réception, parce qu'aujourd'hui, on le voit aussi dans la lecture du dictionnaire des idées reçues, il y a énormément d'énoncés qui sont des allusions qu'à l'époque, qui étaient de la connivence avec un public, disons, voilà, moyen ou lettré, et qui aujourd'hui sont vraiment perdus, ou en tout cas qu'on doit reconstruire, reconstituer cet effet de résonance. Il y a 20 ans, 25 ans, entre le moment où l'éducation sentimentale est publiée et puis les événements dont il est question. Okay. Donc il y a une mémoire qui est devenue pour nous une mémoire historique, qui était déjà une mémoire historique, puisque Flaubert travaille aussi sur des récits 38, mais il y a une rencontre entre le discours historien et puis la mémoire générationnelle. Hein, et Flaubert, qui est né en 1821, a été témoin il était à Paris au moment de 48, mais je veux dire, il reste. Ces contemporains sont cette mémoire qui pour nous est vraiment perdue. Donc il y a vraiment un travail archéologique sur les brouillons, sur les notes de lecture qui nous permettent de raviver cette intertextualité, intermédialité. Et en fait, c'est ce que, de façon pionnière, tu avais montré avec Françoise Mélogneau dans cet exposé déjà il y a un certain temps au séminaire Flaubert, cette présence de l'iconographie derrière le texte et qui se traduisait à la fois par l'image et par, et par la légende. Ça, c'était, j'avais retenu ça comme quelque chose d'important. Et là, vous avez montré aussi, dans cette perspective-là, l'importance de la légende, mais aussi de... Ça, je crois que c'est complètement neuf, cette façon dont Flaubert, pour des personnages secondaires, s'inspire, enfin, arrive à construire des personnages, mais qui sont eux-mêmes, qu'il construit aussi comme des personnages clichés. Hein. Donc, il se sert du cliché pour construire un cliché. Et il joue avec ça de façon très subtile. Et on n'a pas, justement, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas fini d'interpréter tout ça. Philippe Dufour.
Oui, donc justement, sur cette question des personnages clichés, je me demandais si vous avez rencontré dans votre enquête les physiologies du type les Français peints par eux-mêmes, où il y a des illustrations de Gavarni, par exemple avec des textes sur la grisette, quand on a une représentation iconographique de la grisette, une sorte de grande légende, pour le coup, quelle est la physiologie que fait un écrivain sur ce type social, parce qu'il, enfin, ça fait partie évidemment de la mémoire collective du lectorat de Flaubert, mais est-ce que lui-même, est-ce que vous avez pu identifier un rapport qui serait plus direct dans les avant-textes entre certains recueils de physiologie illustrés et puis les romans. C'est pas si ma question.
Je peux répondre aussi.
Voilà, c'est Golan.
Je pense que dans sa bibliothèque, pour la correspondance, je n'ai pas du tout épluché, donc ça, vous savez mieux que moi. Mais en revanche, dans sa bibliothèque, comme vous savez, il n'y a pas de physiologie. Il n'y a pas des Français par eux-mêmes. En revanche, on sait que, comme tout le monde, vous en avez parlé, mais il était lecteur du Charivari. Et c'est dans le Charivari qu'a émergé ce genre littéraire et que sont apparues un certain nombre de ces illustrations ou qu'elles ont été rééditées. Donc il y a en fait un direct par rapport à ça. Ensuite, ensuite, je ne sais pas, en ce qui concerne les avant-textes, et là c'est vous qui savez, mais justement, je n'ai pas épluché la correspondance que vous avez fait, les dossiers préparatoires.
Et moi, je n'ai pas trouvé des notes sur la physiologie. C'est plutôt des lithographies de Charivari que Flaubert s'inspire.
Édouard de Beaumont.
Flaubert devait connaître ses textes, mais on n'a pas toujours la trace de ce que les écrivains ont lu, parce que la bibliothèque est lacunaire, parce qu'ils ne disent pas
tout. Il a forcément lu tout ce qu'il y avait dans sa bibliothèque, voilà. Puis il a vu des choses qui n'étaient pas.
Est-ce qu'on...
Oui, il a vraisemblablement lu tout ce qui était. Mais effectivement, il y a forcément d'autres choses. Il allait lire lui-même en bibliothèque, de toute façon, tout ça, ça vous passait dans les mains. Et aussi, les physiologies, c'est des éphémères. Donc, c'est comme le Charivari, c'est des choses qu'on jette. Rien de plus éphémère que ça.
Oui, c'est important aussi, les modes de lecture.
Et donc, ce n'est pas des objets qu'on garde nécessairement.
C'est important. Sur ce point, il y a d'autres remarques?
Sinon, j'ai une petite remarque encore sur le « il fait son droit ». Finalement, vous l'avez rapporté à la phrase qui concerne Frédéric, donc avec l'identité de prénom entre le héros du C et celui de Flaubert. Mais on pense aussi à Deslauriers, pour le coup, alors avec une reprise presque ironique de l'image, puisque bon, Deslauriers traite avec mépris sa grisette.
Oui, et c'est aussi Martignon. Martignon aussi.
Martignon aussi, oui. Oui, donc c'est une image qui ressort.
Et puis il ne faut pas oublier que Flaubert avait commencé à faire son droit, mais qu'il a tellement détesté ça qu'il est tombé malade. Et donc faire son droit, c'est comme le mot affaire dans le dictionnaire des idées reçues, c'est des choses qu'il déteste. Donc c'est aussi dans le cryptage des choses que. Ça, c'est Pierre-Marc de Biasi qui a bien montré la façon dont l'éducation sentimentale crypte et d'autres textes. Mais il y a toujours c'est ça qui est intéressant chez Flaubert, c'est que c'est un feuilleté, c'est très complexe dans le niveau d'analyse, et c'est ce qui fait qu'on lit Flaubert toujours, c'est étonnant. Moi j'avais aussi une remarque à faire sur ce que vous avez dit sur les images en Orient, parce que ça aussi c'est un filon qui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé aux clichés des orientales en France, en Europe, l'orientalisme, etc. Mais il y a aussi la façon dont l'Occident transmet en Orient ses propres clichés. Et il y a cet effet de... Et Flaubert a une vision de l'Orient, ça a été souligné par Pierre-Marc de Biasi, il s'intéresse à l'Orient moderne, et pas seulement, et il se distingue de beaucoup de voyageurs parce que il n'est pas seulement dans le cliché de l'oriental, mais il s'intéresse aussi au fonctionnement de l'Orient moderne et à la façon dont l'Occident là peut déverser ses propres images. Et là, j'ai retenu le passage sur les pages arrachées du Charivari qui sont affichées au mur, et donc ça renvoie à ce qu'on vient de dire sur l'utilisation de l'imagerie et le mode de lecture. D'autres remarques, questions? Les étudiants, un peu, prenez la parole. N'êtes pas... Bon. On s'arrête là. Alors, on remercie encore beaucoup Takashi de ce très bon exposé. Et puis, on va faire une pause, de 15 minutes, et puis on va reprendre avec l'exposé de Ségolène lui-même, qui va nous parler de l'art graphique dans la musique.